Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Sonia Bacast, présidente de la province sud. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation alors que l'actualité reste très dense en cette fin d'année. Actualité politique avec un calendrier de reprise des discussions et actualité toujours financière et budgétaire avec notamment la séance du Congrès qui a vu l'adoption de la DM6 et l'Assemblée de la province sud que vous avez présidée hier. Donc beaucoup de sujets à voir avec vous. Mais d'abord, nous sommes le 13 décembre. 7 mois depuis le déclenchement de la violence insurrectionnelle. 7 mois après, quel bilan est-ce que vous en faites? On a le sentiment d'un timide retour à la normale. Est-ce que c'est également votre impression? Ou est-ce que, économiquement, les séquelles sont tellement vives que cet épisode pèse toujours très fort sur la Nouvelle-Calédonie?
Il y a évidemment un frémissement parce qu'il y a des choses qui se reconstruisent, parce qu'il y a une partie de l'économie qui repart de fait. Mais je considère que la poussière n'est pas retombée, c'est-à-dire qu'à la fois en termes de sécurité, les choses ne sont pas complètement finies. On voit bien qu'il y a des actions insidieuses, des cambriolages, de la tension qui reste très vive. Donc on a besoin de maintenir les forces de l'ordre. C'est ce qu'on a demandé à l'État, à la fois sur la justice, où elle n'est pas encore complètement passée. On a des commanditaires qui sont encore dehors et dont on aimerait bien qu'ils soient arrêtés. Et puis sur le plan économique, où les situations sont très, très disparates. On a des gens qui commencent à avoir des remboursements des assurances et qui recommencent. D'autres qui sont encore en attente et pour lesquels, malheureusement, les prêts reprennent, les mensualités reprennent, les obligations reprennent sans avoir encore eu le remboursement de l'assurance. Donc, situation très compliquée et pas complètement atterrie, mais oui, on sent un frémissement positif et j'espère qu'il continuera en début d'année.
Alors hier, vous avez adopté le budget primitif 2025 de la province sud. C'est un budget en baisse de 10% par rapport à 2024 et vous avez inscrit par anticipation l'aide de l'État. Est-ce que c'est un pari que vous faites ou est-ce que vous pensez qu'effectivement l'aide de l'État va arriver?
En fait, c'est un non-choix. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pouvait pas plus d'ailleurs que les communes ne pourront le faire. On ne peut pas équilibrer un budget avec la perte de recettes qu'on avait, si ce n'est à arrêter tous les services publics essentiels. Je l'ai déjà dit plusieurs fois.
Ce que vous aviez envisagé à un moment.
Exactement. Mais c'était un exercice théorique. On ne va pas priver tous les Calédoniens de services absolument essentiels. Donc c'est un non-choix. On a effectivement, je me suis mis d'accord sur cette option avec tous les groupes politiques de la province qui ont accepté de faire les choses comme on les a faites hier en assemblée. C'était important qu'on puisse le faire tous ensemble parce que je pense que on a besoin de cette solidarité dans un moment difficile pour aller discuter avec l'État avec lesquels les discussions sont pas toujours simples.
Qu'est-ce qu'on attend maintenant? C'est surtout dans le prochain budget, si une fois qu'un Premier ministre sera nommé, une fois qu'un budget sera adopté, que là on aura de la lisibilité.
En fait, pour que les gens comprennent bien, il y a vraiment deux parties. Il y a la partie fin de 2024, donc c'est ce qu'on a voté avec la DM6 au Congrès. Si on n'avait pas l'argent de cette DM6, c'était concrètement la cessation de paiement de la quasi-totalité des collectivités de Nouvelle-Calédonie au 31 décembre. Moi, j'ai énormément, et je m'en excuse sur vos ondes auprès des gens qui sont en attente de paiement, que ce soit les professionnels de santé qui attendent des remboursements, que ce soit les entreprises qui ont travaillé. On a toujours payé rubis sur l'ongle. Et là, malheureusement, on a, parce que le gouvernement nous doit 8 milliards depuis le début de l'année et qu'il ne nous a pas payé, quelques retards de paiement, on va les payer dans les prochains jours, dès l'instant où l'État nous aura versé l'équivalent de ce qui est prévu dans la DM6. Mais donc il y a cette question de 2024, de comment on fait pour payer tout ce qu'on doit payer sur cette fin d'année. Et puis c'est vrai que ça continue jusqu'au mois de janvier parce que ça nous sert au mois de janvier. Et puis c'est fondamental, il y a 2025. Et 2025, ce qui était prévu, c'était au projet de loi de finances nationale qui est tombé avec le gouvernement de Barnier. Et donc on se retrouve là avec strictement aucune visibilité pour la province sud, mais pour la Nouvelle-Calédonie, pour toutes les communes. On sait qu'on va pouvoir payer janvier, peut-être tirer un peu avec de la trésorerie sur février. Mais en fait, après, c'est fini. Et donc on attend un nouveau projet de loi de finances qui arrivera avec un nouveau Premier ministre. Le président de la République l'a annoncé pour les prochaines heures. Donc on attend ça avec une grande impatience parce que la survie de la Nouvelle-Calédonie passe par là. Aujourd'hui, on a un autre problème très urgent qui est l'arrêt du chômage partiel. Le chômage partiel s'arrête le 31 décembre prochain. C'est 20 000 personnes.
Il n'y a pas de sécurité pour le financement après.
Pour l'instant, rien. Et donc tout ça fait qu'on est dans une incertitude permanente qui rajoute de l'incertitude. J'en discutais avec les maires d'un certain nombre de communes de l'agglo. Quand eux et quand nous baissons notre investissement, quand on n'investit plus, eh bien en fait ce sont des entreprises qui licencient. Et au final, quand les aides de l'État n'arrivent pas aux collectivités, nous ne payons pas les entreprises ne payent pas leurs salariés, les mettent au chômage, et au final, c'est l'État qui paye le chômage. Donc ce qu'on dit, nous, à l'État, c'est autant que vous payiez directement, de manière à ce qu'on puisse faire travailler les gens. Là, c'est les gens, ils veulent pas avoir des aides et avoir du chômage, les gens, ils veulent travailler. Donc c'est la reprise qu'il faut que l'État, à laquelle l'État doit participer.
Et alors, dans ce budget primitif 2025, fait encore une fois en espérant que les aides de l'État vont arriver, vous arrivez quand même à dégager une capacité d'investissement pour 2025, parce que c'est indispensable dans l'État où est la Calédonie, on imagine.
Oui, là aussi, c'est des choix. On a fait le choix de laisser le niveau d'investissement à 75% de ce qu'il était l'année dernière, ce qui est énorme, parce que compte tenu de la situation, on a baissé l'investissement, on est passé de 12 à 9 milliards inscrits. On est obligé de baisser, on ne peut pas faire autrement, mais pour pouvoir arriver à 9 milliards, si d'abord il faut évidemment l'aide de l'État, mais ensuite il nous faut faire des efforts drastiques sur le reste. On baisse notre masse salariale de manière extrêmement importante. J'ai proposé aux agents de la province, c'est évidemment sur la base d'un choix personnel, mais de passer à 90% avec un petit bonus quand ils passent à 90% en termes de journées d'absence, donc de manière à les encourager à passer à 90% pour que on fasse baisser notre masse salariale. Je ne renouvelle plus les départs à la retraite quand ils ne sont pas obligatoires. C'est le cas quand on a des médecins, quand on a des métiers sur lesquels on est obligé de les remplacer. Mais toutes les collectivités font ça. Et on est obligé de faire ça pour pouvoir continuer à investir.
Alors vous parliez de la DM6. Un mercredi, le Congrès a adopté cette décision modificative à l'unanimité finalement, mais dans un débat extrêmement vif, extrêmement tendu. Est-ce que vous avez pensé un moment que... il n'y aurait pas de majorité pour adopter cette décision? On a vu au début du débat que c'était possible.
Oui, très clairement. J'ai le débat qui se posait, vous savez, au départ, Bercy, et je l'ai souvent dénoncé, l'attitude de Bercy qui traite la Calédonie malheureusement beaucoup plus mal qu'il le ferait avec n'importe quelle collectivité de la République.
Fausse, et comment en ce moment... Fossoyeur de la Nouvelle-Calédonie.
Oui, mais en fait, faute d'autorité politique, Bercy ne voit que des lignes avec des chiffres. Et sauf que nous, en face, on a des étudiants qui sont en métropole, là, et qui n'ont pas encore reçu la bourse de décembre. Et ça leur permet tout simplement de manger. Mais ça, Bercy, vous savez quoi, ils ne regardent pas ça. Donc, le débat, c'était quoi? C'était, est-ce que Bercy va plier? Donc, Bercy avait une position, il voulait mettre 8 milliards de TGC en plus, 6 milliards de CCS, nous mettre des impôts supplémentaires partout, etc. Il y a eu une négociation par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie envers Bercy, notamment, et je salue l'action de Christopher Gigès au sein du gouvernement parce qu'il travaille beaucoup pour essayer de faire que l'action de Bercy ne nous pénalise pas trop. On a concrètement fait évoluer cette convention qui est encore insatisfaisante, imparfaite, pour laquelle on aimerait qu'il y ait encore des évolutions. Mais le débat qui se posait, c'était qu'il y avait une partie du Congrès qui considérait qu'on pouvait tordre le bras à l'État et leur dire, non, en fait, on ne va pas voter votre truc tel quel. Les 27 milliards, on prend le risque que vous les versiez pas, parce que nous, on est plus fort que vous. Mais vous savez quoi? Ça ne marche pas comme ça. En l'absence de pouvoir politique capable de dire à Bercy, arrêtez avec la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie a besoin de cette aide, et on n'a pas de gouvernement, Bercy fait ce qu'il veut. Donc Bercy était en capacité de ne pas verser ces 27 milliards. Et je vous l'ai dit au début de cet entretien, si ces 27 milliards n'étaient pas versés, c'était la cessation de paiement au 31 décembre de sans doute une trentaine de collectivités sur les 37 que compte la Nouvelle-Calédonie.
Alors on a eu cette même attitude au moment du pacte nickel qui lui avait été rejeté. On a entendu dire dans le débat au Congrès, mais c'est pas grave, on n'a pas signé le pacte nickel et l'État a quand même versé l'argent aux usines.
C'est complètement, complètement fou comme raisonnement parce que dans le pacte nickel, il y avait plein de choses, mais il y avait notamment une subvention énergie de 240 millions d'euros par an, c'est-à-dire 29 milliards par an. Donc, et ces 29 milliards par an, on n'en voit pas la couleur, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un franc qui est versé par l'État, parce que l'État dit quoi? Vous n'avez pas signé le pacte nickel, vous n'avez pas la subvention énergie. Fin de l'histoire. Alors effectivement, l'État maintient sous perfusion la SLN, a fait un emprunt à Prony Ressources de 140 millions d'euros. Mais prenez par exemple Prony Ressources. L'emprunt de 140 millions d'euros, là, il arrive a priori au bout en mars. On a la chance d'avoir un repreneur qui est très intéressé par l'entreprise, qui fait une offre cette semaine, qui continue à être intéressé. Mais la reprise, elle n'arrivera pas avant, je ne sais pas, 6 mois, 8 mois, le temps que la négociation se fasse. Ils viennent voir ici, faire une mission technique pour voir comment l'usine fonctionne une fois qu'elle a vraiment redémarré. Et on n'a pas les sous. Donc, on est en train de négocier avec l'État de nous remettre un petit peu d'argent en plus du prêt de 140 millions d'euros. Mais si on avait eu la subvention énergie de 240 millions d'euros par an, ben on ne se poserait pas cette question-là. Et c'est la non-signature du pacte nickel qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Et le bras de fer, ceux qui croient que en faisant un bras de fer pur et simple, en mode on verra bien qui est le plus fort, ben ça marche pas, ça marche pas.
Et on a vu
et pourtant Dieu sait que des bras de fer, j'en ai fait quelques-uns dans ma vie, mais il y en a qui sont plus intelligents que d'autres.
Mais on a vu apparaître aussi dans ce débat une tension très vive entre le Congrès et le gouvernement. On a l'impression aujourd'hui que c'est deux collectivités qui s'opposent, qui n'ont pas la même façon de voir les choses. C'est un peu inquiétant sur un plan politique, non ?
Oui, c'est hallucinant et je crois que c'est aussi la preuve qu'on arrive au bout d'un système. Ce système de congrès et de gouvernement qui a été mis en place avec l'accord de Nouméa, sur lequel vous savez que je suis très critique parce qu'il y avait beaucoup d'ambiguïté. Et c'est vrai que cette création, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui est censé être l'émanation du congrès, qui lui-même est l'émanation des provinces, ben, en fait, on se rend compte que un certain nombre de membres du gouvernement n'a plus de lien avec le groupe politique qui les a mis là. Et donc, alors c'est la difficulté. Moi, je vais vous donner un exemple, mais j'avais discuté d'un amendement avec le gouvernement, avec Louis Mapou et Yannick Slamet, un amendement à la DM6. Et puis, ben, donc ils étaient d'accord. Et puis le groupe uni ne vote pas l'amendement. Enfin, dans quel monde on vit ? Je veux dire, Yannick Slamet et Louis Mapou, ils sont élus par qui ? Donc, on a aujourd'hui un gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui, malheureusement, a vécu un peu déconnecté de ceux qui les ont élus. Une fois que j'ai dit ça, on n'a pas besoin, pour l'instant, d'avoir une instabilité de plus et un conflit de plus entre deux collectivités. Donc on a joué, nous, le rôle un peu de médiateur pour que les choses se passent bien et pour qu'au final, la DM6 soit votée, mais que le gouvernement se reconnecte avec le Congrès de manière à ce que les prochaines négociations, qui vont être très importantes, les prochaines négociations financières, c'est quoi ? C'est le fameux près d'un milliard d'euros ou une subvention, si on arrive à en avoir une partie en subvention, pour lequel Bercy va nous demander des contreparties. Et Bercy, eux, ils font une liste, la liste à Prévert, là, où ils demandent X milliards de TGC, X milliards à chaque fois. Et donc là, il faut négocier. C'est à ce moment-là que le bras de fer se fait. Et on a demandé au gouvernement que ce bras de fer se fasse avec le Congrès, parce que c'est le Congrès qui vote à la fin les textes.
Et donc on va y arriver, là, ça va...
Oui, on va y arriver.
Il y a des rumeurs, comme souvent, de chute du gouvernement, c'est pas à l'ordre du jour, a priori.
Oh, certains l'aimeraient bien, hein, pas nous.
Alors, si on parle directement politique et avenir institutionnel, le week-end dernier, on a eu la surprise de l'annonce d'un calendrier de reprise des discussions. C'était à l'issue d'une réunion de la délégation transpartisane du Congrès, là, pour le coup, avec le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vous-même, vous y avez été associé en visioconférence. Alors, qui a eu l'initiative de cette réunion ? Comment elle est arrivée ? Qu'est-ce qu'il faut en retenir ?
Cette réunion, elle a été calée avec Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet quand ils sont venus
lors de leur venue en
Nouvelle-Calédonie. On s'est calés. On devait à l'époque tous, pour des raisons X ou Y, être à Paris à ce moment-là et donc faire un point de l'avancée de nos discussions le 5 décembre. Donc cette réunion a bien eu lieu. Effectivement, certains étaient à Paris, certains n'y étaient pas. On était à Nouméa avec l'UNI notamment, qui ne s'est pas déplacé non plus, pour faire un point sur ce sur quoi on s'était mis d'accord à Nouméa, et on s'était mis d'accord sur un calendrier dans lequel on avait des discussions ensemble à Nouméa du 15 décembre au 15 janvier, et ensuite avec l'État à Nouméa ou à Paris, mais du 15 janvier au 15 mars. C'est Pierre Chanel Tutugoro qui a présenté ce calendrier devant Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher. Donc les choses étaient calées entre les uns et les autres. Vous savez, quand j'étais interrogée sur ce calendrier, j'ai dit que je restais sceptique sur la sincérité de l'Union calédonienne. L'avenir m'a donné raison. On a eu quelques jours après un communiqué du président de l'UC, Emmanuel Tchibaou, qui a dit « mais non, pas du tout. En fait, le calendrier, c'est pas ça. Nous, on veut pas parler avec qui que ce soit de sujets politiques avant le congrès du FLNKS. » Donc, on verra ce que ça donne.
Donc, j'espère... ce calendrier est caduc, a priori ?
Je sais pas. Je sais pas, parce qu'on a certains membres de l'UC qui nous disent « non, non, vous inquiétez pas, on continue. » Moi, je considère simplement que le chemin d'un accord, c'est un chemin sérieux, compliqué, qui existe. Il y a des solutions pour se mettre d'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Ces solutions techniques, elles existent. Politiques, elles existent. Pour ça, il faut que tout le monde ait envie de le faire. Je crois dans la sincérité et la volonté des groupes qui sont autour de la table de trouver une solution. Je ne suis pas convaincue de la sincérité de l'UC. Je crois que l'UC essaye de gagner du temps pour continuer à faire partir les gens, pour continuer à faire peur et pour obtenir à la fin que les élections se tiennent avec un corps électoral gelé. Alors on peut me dire que ce n'est pas vrai. Je demande que ça, de croire que ce n'est pas vrai. Ce qui s'est passé le 13 mai me permet, je crois, d'être sceptique et de ne pas être naïve par rapport à la position de l'UC. Donc j'attends de voir. S'il y a des discussions, tant mieux, mais faut pas parler pour rien dire, quoi. C'est-à-dire que c'est pas la peine de parler avec des gens qui n'ont pas de mandat et qui se font désavouer à chaque fois qu'ils font une avancée. C'est pas possible. Les discussions, elles doivent avoir lieu avec des gens qui sont mandatés. Et le communiqué du Palika montre que les gens qui discutent avec nous sont bien mandatés, sont légitimes, que dans nos partis politiques... Dans les partis politiques non indépendantistes, il n'y a pas de difficulté. À l'éveil océanien, il n'y a pas de difficulté. À l'Union calédonienne, il y a des difficultés.
Ça veut dire que malgré l'apaisement qu'on voit de leur côté, malgré l'élection d'un nouveau président, la personne d'Emmanuel Tchibaou, les liens ne sont toujours pas coupés avec la CCAT. Il n'y a pas de vrai désaveu de la CCAT.
Je ne vais pas me prononcer pour l'UC. Je ne sais pas comment ils gèrent la CCAT en interne. Ce n'est pas à moi de juger ça. Moi, je juge de ce que je vois, c'est-à-dire les discussions. Et les discussions, pour l'instant, on n'a pas de ce qu'ils appellent des discuteurs. On n'a pas de discuteurs officiels et on n'a pas de mandat officiel. Enfin, on ne sait pas quel est leur mandat. Donc, pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, moi, je suis, encore une fois, les loyalistes seront et sont autour de la table à chaque fois. Mais pour l'instant, je ne crois pas ni dans la sincérité ni dans la bonne volonté de nos interlocuteurs de l'Union calédonienne.
Alors Jean-Pierre Diaoué, lui, participait à cette réunion, comme vous, en visioconférence. Le Palika semble mettre également des bémols ou en tout cas s'interroger, notamment sur la composition des négociateurs, l'identité des négociateurs, leur légitimité. Il s'interroge sur le fait que ce soit les groupes politiques du Congrès qui aient été identifiés.
D'une part, mais je crois qu'il s'interroge surtout sur le partenaire État, en fait, ce que j'en comprends. Après, peut-être qu'ils nous expliqueront les choses autrement. Mais ce que je comprends, c'est cette légitimité, celle de Yaël Braun-Pivet et de Gérard Larcher, qu'il se pose surtout. C'est-à-dire que le partenaire État est un partenaire essentiel dans les discussions. Et je suis assez d'accord avec le Palika sur le fait de dire... OK, c'est super, on discute avec Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, qui sont des personnalités de haut niveau et qui ont, dans le triangle dont on a besoin au niveau de l'État, l'un des trois piliers. Mais, comme je le disais, l'État, c'est trois piliers. C'est le gouvernement, donc l'exécutif, qui nomme des gens qui sont censés mener les discussions, d'une part, et d'autre part, présenter un projet de loi constitutionnelle quand il y aura une loi constitutionnelle. Le président de la République, qui seul peut déposer un texte au Congrès de Versailles, peut convoquer le Congrès de Versailles, et trois, le Parlement qui le vote. Et si on n'a pas ces trois éléments alignés, ça ne marche pas. Et on ne sait pas qui est le partenaire État, en fait. Et je pense que dans le communiqué du Palika, en tout cas je le comprends comme ça, on a besoin de savoir qui est l'État, en fait. C'est qui ? Est-ce que c'est les présidents de chambre ? Est-ce que c'est le président de la République ? Est-ce que c'est le futur gouvernement ? Et si oui, dans ce gouvernement, est-ce que c'est le Premier ministre ? Est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur ? Est-ce que c'est le ministre des Outre-mer, s'il y en a un ? Enfin, donc, à un moment donné, il faut clarifier ça et je partage le fait que c'est important.
Et ça, il faut attendre évidemment la nomination d'un nouveau Premier ministre et la constitution de son nouveau gouvernement. Dans ce communiqué qui a été publié à l'issue de cette réunion, on parle également comme base de négociation des accords qui ont été travaillés entre les groupes politiques avant le 13 mai. C'est quoi ces discussions? Parce que ça n'a jamais été vraiment rendu public. On sait que vous vous êtes parlé, il y a eu plusieurs formats de discussion. Il en est sorti quoi? Il y a vraiment une base pour trouver un accord?
Oui. Oui, il y avait, d'abord, on y a passé beaucoup de temps et il y a des vrais équilibres qui avaient été trouvés. Maintenant, ces équilibres, ils ont de fait bougé, sans doute, de part et d'autre. D'une part, parce que s'ils avaient été complètement validés, il n'y aurait pas eu de 13 mai. Donc, ça veut dire que les uns et les autres ne les ont pas validés dans leurs instances. Donc, forcément, ils ont à ce stade, pas de valeur politique. Mais l'idée, c'est de ne pas tout recommencer. Les discussions sur le corps électoral, sur le droit à l'autodétermination, sur la relation avec la France, sur la répartition des compétences, sur la composition du Congrès, du gouvernement, sur les provinces, tout ça, on les a eus pendant des heures et des heures. Et on est arrivé à des équilibres. Évidemment, la première question qui se pose, c'est quid, est-ce que le curseur de ces équilibres a bougé? Et c'est ça qu'on est en train de poser dans un premier temps. Et une fois qu'on aura posé ça et qu'on saura, globalement, on se rend compte que sur le corps électoral, on est assez proche, mais qu'on est très très loin sur le droit à l'autodétermination et que l'État intervient. Et l'État dit, on se rend compte que c'est pas conciliable et donc qu'on acte le fait qu'il n'y a pas d'accord possible et on organise nos désaccords, et c'est pas rien, mais on organise la Nouvelle-Calédonie pour prendre en compte nos désaccords. Soit l'État dit, on peut continuer parce que, en fait, on peut rapprocher les points de vue, et puis à la fin, si les points de vue ne se rapprochent pas, l'État tranche. C'est un choix, mais d'abord, il faut, dégrossir le problème pour savoir quelles sont les distances qu'il y a sur chacun des sujets.
Mais sur tous ces sujets-là, vous avez déjà discuté, déjà négocié et déjà avancé?
On a déjà discuté, on a déjà avancé. Encore une fois, certains curseurs ont sans doute bougé. En ce qui nous concerne, il y a des choses qui faisaient partie des équilibres d'avant 13 mai pour lesquelles on n'a pas le même regard. On s'est fait agresser le 13 mai avec des actes d'une violence extrême, raciste, et on n'a évidemment pas le même regard sur la manière de construire l'avenir. On a aujourd'hui une volonté de protéger nos populations pour ne pas que ça se reproduise, qui prend le dessus sur tout le reste. Tout ce qu'on fera en termes d'organisation de la Nouvelle-Calédonie sera fait pour éviter de se retrouver dans cette situation-là. Et donc forcément, ça a des conséquences sur les équilibres qui avaient été trouvés avant 13 mai.
Surtout qu'on se retrouve, comme à chaque négociation d'accord, avec deux partenaires adversaires, on dit généralement, qui n'ont pas du tout le même objectif. Donc on a entendu encore, c'est l'Union calédonienne qui a réaffirmé sa volonté, un calendrier d'un accord de Kanaky en septembre 2025 pour une indépendance effective 5 ans après. On imagine que vous posez également un préalable au début de ces négociations et que votre objectif, bien sûr, c'est d'arriver à un accord qui maintienne la Calédonie dans la France.
Bien sûr, c'est les Calédoniens se sont exprimés 3 fois pour rester dans la France, donc on va pas...
Ça fait 3 ans, le dernier référendum.
Oui, peu importe.
C'est-à-dire que le temps a passé.
Il n'y a aucun dispositif possible, légal, aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de nouveau référendum prévu, il n'y a pas de dispositif qui permet à la Nouvelle-Calédonie de devenir indépendante. Et puis, les Calédoniens ont décidé le contraire, donc on va pas leur tordre le bras. Et puis l'UC, vous savez, l'UC pose un calendrier d'accession à Kanaky. Très bien, ils ont commencé, ça fait longtemps. Le premier, c'était top 84, vous savez. Donc le calendrier pour l'accession à Kanaky, ce n'est pas la première fois qu'ils les posent. Mais ils demandent un calendrier, ils exigent un calendrier pour l'accession à Kanaky, mais ils disent que la France doit continuer à payer, par contre. Mais ça n'existe pas, ça, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, vous savez, il y a un certain nombre d'indépendantistes d'autres territoires, et je ne vais pas les citer, qui m'ont dit... Mais nous, on prépare notre indépendance, on est indépendantiste, on prépare notre indépendance, mais on n'a pas envie de mendier à l'État, on a envie d'avoir les moyens économiques de notre indépendance. Là, les indépendantistes, et ceux en particulier de l'UC, puisque la CCAT est une émanation de l'UC, ils ont d'abord commencé par tout casser. Donc on est encore plus loin de l'autonomie économique. Et c'est vrai qu'on voit bien une vraie différence entre l'Unipalika et l'UC. L'Unipalika dit, nous, on a envie d'avoir... On est indépendantistes, ils sont indépendantistes, évidemment... Mais on veut avoir les moyens de notre indépendance. Et là, tout de suite, on voit bien que ça va être un peu compliqué. Voilà.
Alors, l'idée, c'est aussi, vous le disiez, de trouver un accord qui garantisse la paix, notamment pour les générations futures. Le problème, c'est que ça avait été aussi le cas des deux accords précédents. On avait même dit, en 98, plus jamais ça. manifestement, c'est compliqué. C'est quoi les pistes pour arriver à pacifier, à apaiser les relations entre les deux légitimités de la Nouvelle-Calédonie ?
D'abord, je crois que toute forme de référendum binaire est à proscrire. Ça clive les populations. Ça, rappelons-nous la situation dans laquelle on était avant 2018, où c'était quand même beaucoup moins tendu que ça l'est aujourd'hui. Donc s'il doit y avoir des consultations, elles doivent se faire sur des projets partagés, sur une organisation de la Nouvelle-Calédonie partagée. Je crois qu'il y a plus d'intérêt et il y a même un vrai risque à avoir de nouveaux référendums binaires. Je pense qu'aujourd'hui, les Calédoniens n'en veulent plus, quelle que soit leur obédience politique. Ensuite, il y a des évolutions possibles en termes de construction de notre autonomie. Il y a des choses aujourd'hui qui sont dans la loi organique, par exemple, qui est votée par le Parlement français, qui sont des sujets d'organisation propres à la Nouvelle-Calédonie, de savoir combien il faut d'élus pour faire le quorum au Congrès. Bon, entre nous, ça fait partie des choses qu'on peut peut-être faire tout seul sans avoir des conséquences et sans perdre notre appartenance à la République. Donc il y a des choses qu'on peut faire évoluer, il y a des symboles qu'on peut faire évoluer, mais encore une fois, nous, notre enjeu aujourd'hui, c'est de protéger nos populations. Et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, nous portons dans les discussions avec Nicolas Metzdorf, avec Gilles Brial, avec Virginie Rufnak, avec Alcide Ponga, notre projet de fédération territoriale. On l'a porté ensemble. Il s'appelait hyper-provincialisation, fédéralisme interne. Aujourd'hui, on est d'accord sur ce terme, c'est-à-dire qu'on veut que l'endroit où on est majoritaire, on puisse décider pour nos populations.
Avec des compétences accrues aux provinces.
Très, c'est ça.
Les critiques sont toujours les mêmes. La Calédonie est une et indivisible.
Bien sûr, elle l'est.
On va séparer les populations chacune dans son coin, c'est impossible. Vous avez des réponses à tous ces arguments dans la nouvelle organisation qui pourrait être proposée à la Nouvelle-Calédonie ?
Les réponses, elles sont assez simples. En 88, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou ont fait le choix de l'organisation que nous proposons aujourd'hui. Cette organisation où les provinces étaient le cœur du système et où finalement, de manière assez lucide, ces deux responsables politiques se sont dit « nos populations sont à la fois très différentes et parfois elles se ressemblent, mais en tout cas elles ont pas la même manière de vivre, pas le même projet de société. La démocratie qui est le cœur de notre raisonnement, c'est pas dans le système coutumier, c'est pas la démocratie qui l'emporte. La valeur travail, mérite, ordre, c'est pas la valeur fondamentale du système coutumier. Et c'est pas grave, je porte pas de jugement à ça. Mais je considère que chacun doit pouvoir s'épanouir et faire vivre ce en quoi il croit, sans qu'on essaye de le rentrer dans un système auquel il ne veut pas appartenir. Et donc, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur avaient construit un modèle dans lequel, finalement, chacun chez lui, chacun là où il était majoritaire en tout cas, pouvait mettre en place ce en quoi il croyait. Ça a été démonté par l'accord de Nouméa. Et c'est l'accord de Nouméa qui nous a explosé à la figure 25 ans après. C'est de vouloir gommer, ou en tout cas se cacher les yeux devant la réalité de nos différences, en disant, mais non, gouvernement collégial, mais il n'y a rien qui marche. Ça ne marche pas. On est différents, c'est comme ça. Soit on dit, on est différents, comment on organise nos différences, soit on continue à se voiler la face et à dire, mais non, mais en fait, on a tous envie d'être pareil. Non, moi, je n'ai pas envie de vivre dans le système coutumier. Et il y a certains indépendantistes qui n'ont pas envie de vivre dans le système européen. Bah, dont acte. C'est pas grave, quoi. C'est pas grave. On organise les choses de manière à ce que chacun puisse être bien là où il est majoritaire.
Alors, des incertitudes sur le calendrier qui avait été annoncé, hein, vous le disiez, congrès du FNKS dans la deuxième quinzaine du mois de janvier, s'il est maintenu à cette date-là, parce que ça semble là encore assez flou. Et après, est-ce que la date du 31 mars qui est évoquée, hein, dans le communiqué du Sénat et de l'Assemblée nationale, est-ce que la date du 31 mars pour un accord, c'est vraiment une date ultime pour pouvoir organiser les élections avant la fin de l'année, enfin avant novembre 2025, ou est-ce que bon, les choses peuvent encore évoluer ? Est-ce qu'il y a de la souplesse ou non, quoi ?
Pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir, on a un rétro-planning assez rigide. C'est-à-dire que pour pouvoir organiser les élections avant le 30 novembre, il faut avoir un corps électoral valide pour faire les listes électorales avant la fin du mois de juillet. Pour pouvoir avoir des listes électorales possibles avant la fin du mois de juillet, il faut avoir un accord avant le 31 mars pour pouvoir modifier la Constitution. Bon, on a déjà expliqué tout ça. Le 31 mars, on peut aller jusqu'au 15 avril, je pense, en étant dans un calendrier hyper tendu, mais pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Il faudra qu'au mois de mars, on soit capable de dire il y a un accord ou il n'y a pas d'accord. Et l'État devra dire à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors s'il y en a un, c'est assez simple, il suffit de le traduire de manière juridique et de le passer au Congrès de Versailles. S'il n'y en a pas, l'État devra prendre la responsabilité d'une décision.
Donc l'année 2025 va être encore capitale et décisive. Je voulais terminer sur un point que vous avez évoqué rapidement tout à l'heure, mais c'est peut-être une des rares bonnes nouvelles de ces dernières semaines. Premier Ressources a repris son activité. Est-ce que ça va tenir ? Et puis vous parliez, il y a un repreneur qui voulait voir un petit peu l'usine en marche. Alors il en est où ? Est-ce qu'il maintient son offre ? Et est-ce qu'on peut croire en 2025 au redémarrage de l'activité nickel dans le Sud ?
Oui, j'y crois. Alors tout ça est évidemment toujours très fragile. On a ce repreneur qui reste très intéressé par la reprise de l'usine du Sud, mais qui a besoin, c'est un peu comme quand on achète une voiture. Pour l'instant, on tourne la clé et ça ne fonctionne pas. Donc ils ont quand même besoin de voir le moteur tourner. Donc c'est la reprise permet d'imaginer que dans quelques semaines, le repreneur pourra venir voir une usine qui marche pour décider de manière définitive s'il la reprend ou pas. Mais les choses, effectivement, vont plutôt dans le bon sens. Il y a des difficultés financières qu'il faut qu'on règle, mais qui sont solutionnables. Et puis, on a un deuxième groupe qui est intéressé, qui est également là dans quelques jours. Donc, je suis à ce stade plutôt optimiste, sans être complètement rassuré et sans que la situation soit complètement stabilisée. Parce qu'au final, si ce repreneur ou l'autre se désiste, on n'a plus rien. Et puis, c'est fragile, mais je suis plutôt optimiste.
Pour conclure, je ne vais pas vous demander des vœux pour l'année 2025. Il y en aurait tellement qu'elle ne ressemble pas peut-être à l'année 2024.
Oui, alors je crois que c'est le minimum. Et puis, c'est surtout, je crois, de dire aux Calédoniens de continuer de croire dans la Calédonie, parce que, alors d'abord, moi j'y crois, on a des atouts extraordinaires, et de miser sur leur travail, sur ce qu'ils font, eux, sur ce qu'ils produisent. La Nouvelle-Calédonie n'aura plus les moyens de ce que j'appelle l'argent gratuit, il n'y aura plus... Donc chacun va devoir construire, produire, et on sera là pour accompagner ceux qui veulent construire et produire.
Sonia Bacquès-Préon de la Province Sud, merci d'accepter notre invitation ce midi. La fin de ce magazine Transparence, j'en profite pour vous dire que c'est le dernier de l'année 2024. On se retrouve avec Transparence en 2025, bien sûr. Un magazine qui sera disponible dans quelques instants en audio et vidéo sur notre site internet. Et il sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Excellent après-midi. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.